Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Plus de 110 corps repêchés, plusieurs blessés, des maisons écroulées et des centaines de personnes sans abri. Bilan encore provisoire des dégâts causés par une pluie torrentielle qui s'est abattue cette semaine sur le village Kassaba, territoire de Fizi au sud Kivu. L'administrateur de Fizi lance un SOS aux autorités compétentes et aux humanitaires. 100 jours du général Kakule Somo à la tête du Nord Kivu. La porte-parole du gouverneur dresse un bilan positif de l'action du gouverneur et la coordination urbaine de la société civile du Congo demande au gouverneur de fournir davantage d'efforts pour sécuriser les zones en proie aux groupes armés. L'invité de ce midi, Judith Maroy, responsable du club Zaïda Catalane pour la paix et la sécurité. Judith Maroy revient sur la corrélation entre le changement climatique, la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. C'est à la suite d'une étude récente publiée par l'Institut international des recherches sur la paix, basé à Stockholm, en Suède. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par ce bilan revu à la hausse des dégâts causés par une pluie torrentielle sur le village Kassaba dans le territoire de Fizi. Nous sommes bien au sud Kivu. C'était dans la nuit de jeudi 8 au vendredi 9 mai en cours. L'administrateur de Fizi parle de plus de 110 corps déjà repêchés qui gisent au sol, plus de 40 blessés, 150 maisons écroulées et 850 personnes sans abri. Bilan encore provisoire car les fouilles manuelles continuent, affirme l'administrateur. Administrateur du territoire de Fizi, Sami Badibanga, avoue les limites des autorités locales et lance un SOS aux autorités tant nationales que provinciales ainsi qu'aux humanitaires. On l'écoute.
Nous lançons un appel au gouvernement national, au gouvernement provincial de nous venir en aide pour pouvoir enterrer nos frères et sœurs, nos enfants qui sont partis dans l'au-delà sous cette méchante catastrophe naturelle. Certains corps, un grand nombre, est déjà étalé et nous demandons que nous puissions avoir des cercueils, que nous puissions ensemble enterrer et dans la grande dignité ces chers frères qui n'ont rien fait à la nature, qui n'ont rien fait à ce monde, mais qui sont partis à cause de la caprice de la nature, peut-être à cause de notre indifférence. Nous lançons aussi un appel à la communauté des humanitaires de pouvoir aussi nous venir en aide. Il y a eu plusieurs maisons qui se sont écroulées. Les mamans, les femmes, les vieillards, les enfants passent nuit sous la belle étoile. Les écoles sont détruites. Il y a même un camp militaire où il y avait les éléments des phares d'essai. Un grand nombre reste porté et disparu. Et toute cette situation traumatisante de stress nous préoccupe beaucoup plus et nous voulons un soulagement.
Autre titre du journal, le général Évariste Kakule Somo vient de totaliser 100 jours à la tête de la province du Nord Kivu, dont le chef-lieu s'est déplacé provisoirement dans la ville de Beni. Hier samedi, devant la presse, la porte-parole du gouverneur de province, Prisca Kamalalwanda, a dressé un bilan positif de l'action de l'autorité provinciale durant ses 100 premiers jours. C'est par exemple le lancement des travaux de réhabilitation des infrastructures dans les territoires de Beni, Lubero et Walikale, la prise en charge des combattants Wazalendo ou encore la dotation de la police et des phares d'essai d'équipements et engins roulants. Prisca Kamalalwanda le dit dans cet extrait choisi par Guylaine Kassassia.
Le gouverneur de province, il n'a pas croisé les bras. Sur le plan diplomatique, il y a eu amélioration de la coopération marquée par les visites des ambassadeurs, notamment l'Union européenne, la Belgique, l'Ouganda, les vice-premiers ministres belges. Amélioration de relations avec la MONUSCO marquée par l'installation du quartier général de la force militaire et de la police des Nations Unies. Sur le plan sécuritaire, la dotation d'engins roulant à deux roues à la PNC Kasindi, la dotation d'engins roulants à quatre roues à Beni, la dotation des 12 kits internet et matériel de communication au FRDC à Walikale, la prise en charge alimentaire et organisationnelle des VDP et la réouverture du centre d'instruction militaire de Nyalek. Les gouverneurs des provinces avec nos militaires des FRDC, ils continuent à se battre pour récupérer la ville de Goma, les territoires qui sont déjà occupés par les rebelles.
Tout en saluant ce bilan qu'il qualifie de remarquable, Junior Mbakuli Rai, président intérimaire de la coordination urbaine de la société civile du Congo, demande au gouverneur de fournir davantage d'efforts car plusieurs zones restent secouées par les groupes armés, aussi bien locaux qu'étrangers, ce qui, selon lui, empêche le retour des personnes déplacées ainsi que le développement de la province. Du côté de l'Ituri, les groupes armés Codeco et Convention populaire pour la révolution intensifient des attaques sporadiques contre les positions des FARDC et les civils dans plusieurs localités dans le territoire de Djougou. D'après des sources de sécurité, au moins 9 personnes ont été tuées et 3 personnes kidnappées cette semaine dans ces entités. De nombreux habitants ont également fui dans les différents camps de pêche à la plaine du lac Albert. Certains leaders de la milice CRP mobilisent la population pour financer cette rébellion, ajoutent les mêmes sources. Isaac Remoyope nous en parle.
Parmi les victimes, 3 creusers artisanaux d'or ont été kidnappés vendredi par Codeco dans le village de Nguva, puis relâchés ce samedi moyennant le paiement des rançons. La veille, des agriculteurs accusés de sorcellerie ont été brûlés vifs par certains enseignants de Codeco à Ngabou, rapportent des sources de sécurité. Une attaque de cette milice a été étouffée également par les FARDC au site minier de Blanquette. 3 miliciens ont été neutralisés et une arme récupérée, déclarent les mêmes sources. À Café, des militaires des FARDC et un de leurs dépendant au péri dans une embuscade de la milice Convention populaire pour la révolution CRP. Un corps sa vie a été aussi découvert à Sabé. Les forces loyalistes ont riposté et mis en déroute ces hommes armés. Certains se sont dissimulés parmi la population dans les localités de Dilo, Mbapeni et Logotakba, indiquent des sources de sécurité. Ils cherchent à se réorganiser pour déstabiliser la zone. Un leader de cette milice oblige chaque famille de contribuer 10 000 francs congolais dans la chefferie de Baïma Bagourou pour soutenir cette rébellion, alerte le service de sécurité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le commandant de la 22e région militaire a séjourné jeudi à Kamina, dans la province du Olomami. Il est allé inspecter et évaluer l'opération Mazingira qu'il a lancée à Mitwaba, Malimbankulu et Manono. D'après le général de brigade Eddie Capin, cette opération donne déjà des fruits car sur le terrain, la paix et la sécurité s'enracinent davantage. Jean Gandou nous parle de cette opération.
L'opération Mazingira consiste à débarrasser ces milieux de tout ce qui sème la terreur, notamment les miliciens Maïmaï qui s'illustrent par leur activisme, caractérisé entre autres par des exactions sur des paisibles citoyens. Par cette opération, indique le commandant de la 22e région militaire, l'objectif est le rétablissement de la paix et de la sécurité. D'après le général de brigade Eddie Capent, une grande partie du territoire de Malimbankulu recouvre sa quiétude avec le renforcement de la présence de l'armée. Information confirmée par d'autres sources qui renseignent que les populations qui avaient trouvé refuge en Brousse et ailleurs, fouillant les exactions des Maïmaï, sont déjà rentrées dans leur village, le cas du secteur des Badia. Ils s'adonnent à leurs activités de routine, l'agriculture. Dans d'autres secteurs, les Maïmaï, se voyant traqués, se sont transformés en coupeurs de route. Le commandant de la 22e région militaire promet de les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement pour qu'ils soient mis hors d'état de nuire et que la population vive partout dans la paix et la sécurité.
L'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental a mis en accusation le gouverneur de province Jean-Paul Mbouéboué, 3 ministres provinciaux, un conseiller financier du gouverneur, ainsi que le comptable public principal des dépenses, code 0626. C'était au cours d'une séance plénière tenue hier à l'Assemblée provinciale, plénière consacrée à l'examen du rapport de l'enquête parlementaire effectuée sur la gestion du gouvernement provincial allant du 1er juillet 2024 à ce jour. Explication externe.
La commission consacrée à l'enquête parlementaire révèle que les 3 millions de subventions accordées l'année dernière à la province au titre des investissements pour la réalisation des travaux d'intérêt général à impact visible ont été détournés. La commission évoque également le détournement des 100 000 dollars de subventions accordées par le ministère de l'économie au ministère provincial de l'agriculture du Kasaï-Oriental pour la relance de l'agriculture ainsi que près de 450 millions de francs congolais de rétrocession pour les mois imprécis. D'autres faiblesses relatives à la gestion des fonds publics sont mentionnées dans ce rapport, dont notamment la simulation des effectifs pour l'année 2024, les faux en écriture et des factures qui ne traduisent pas la vérité. Sur les 24 députés provinciaux présents à la plénière, 14 ont voté pour la mise en accusation, 9 et un bulletin nul. Des sources proches de l'Assemblée provinciale affirment que le dossier sera déposé à la justice de ce lundi. Contacter le gouverneur de province dit se préparer pour affronter la justice. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, l'amicale des médecins formés à la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Kisangani dote l'UNIKIS d'un auditoire polyvalent. L'inauguration de ce bâtiment a eu lieu hier samedi, soit plus d'une année après la pose de la première pierre. Construit selon les normes en la matière, cet ouvrage de 15 mètres sur 15 a une capacité de 375 places. Le coût de travaux est estimé à 95 000 dollars américains. Jacques Moukonkolé, reportage.
L'idée de doter la faculté de médecine d'un auditoire polyvalent date de 2019. C'était à l'occasion de la célébration des 30 ans d'existence de formation diplômante en cycle complet, révèle le président de la MEKIS, le docteur Nicolas Ndokoutenganser.
Nous avons pu évaluer les besoins de la faculté et avions constaté en même temps que le nombre d'étudiants ne cessait d'augmenter. C'est ainsi que nous est venue l'idée de doter notre faculté d'un auditoire polyvalent qu'elle utilisait le moment venu selon ses divers besoins.
Cette œuvre est la première du genre dans l'histoire de l'université de Kisangani, déclare le recteur intérimaire, le professeur Jean-Jeannot Joakadi. Il ne tarit pas d'éloges envers la MEKIS.
Vous avez inscrit dans les annales de l'université de Kisangani une page historique en lettres d'or. À travers cet auditoire, la MEKIS participe à la formation de la jeunesse dans un élan de solidarité intergénérationnelle.
Cette marque de reconnaissance est également exprimée par les bénéficiaires qui promettent d'ailleurs une utilisation responsable, comme l'a fait savoir leur représentant facultaire. Rappelons qu'en 2019, la MEKIS avait doté les cliniques universitaires de Kisangani de quelques matériels aussi bien sanitaires que didactiques. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Autre inauguration, cette fois au village Massambio, situé sur la route nationale numéro 1 dans le territoire de Kwamout. Il est désormais doté d'un marché municipal construit suivant les normes urbaines. Il s'agit d'un don de la fondation David Bisaka Fodabi, du député provincial qui porte le même nom, pour permettre, selon lui, le développement de ce coin de la province du Maïndombe. Cela malgré le contexte d'insécurité qui prévaut depuis plusieurs années, dit-il. L'inauguration du dit ouvrage a eu lieu vendredi, sous la direction des chefs coutumiers, en présence de la population en liesse qui salue l'initiative. Irène Mboma, reportage.
Ce marché municipal est construit en matériaux durables avec des pavillons et un dépôt pour le stockage des marchandises. Pour les responsables de la fondation David Bisaka Fodabi, ce marché est une réponse pour offrir aux commerçantes et commerçants qui vendent depuis des décennies devant les parcelles un lieu sécurisé pour exercer leurs activités. Le député provincial David Bisaka dit avoir investi plus de 29 000 dollars américains pour réaliser ce projet. D'après lui, cet investissement témoigne de son engagement et de sa volonté de booster le développement de cette contrée qu'il a vu naître. Il appelle chacun à faire bon usage de cet espace et à veiller à sa bonne maintenance. De l'autre côté, les habitants venus nombreux à cette cérémonie inaugurale expriment leur gratitude à l'égard de leurs bienfaiteurs. Nous sommes dans la joie pour ce marché. Depuis plusieurs années, on n'avait pas un lieu sûr pour vendre nos produits. Surtout nous, les femmes de Massambio. Maintenant, nous avons un bon marché. Nous disons merci à l'honorable David. À l'occasion, les autorités coutumières qui ont procédé à l'inauguration de ce marché saluent également cette initiative qu'elle pense salvatrice. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Parlons culture à présent. Les rideaux sont tombés hier samedi au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa sur la 39e édition des journées congolaises de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse Joukotège en sigle. Un événement culturel majeur porté par la compagnie Théâtre des Intrigants qui a ouvert ses portes mercredi 7 mai au même endroit. D'autres activités se sont déroulées au siège des Intrigants à Njili et dans quelques écoles de Kinshasa. Cette année, le festival était placé sous le signe d'un combat essentiel, l'égalité entre les sexes. Le directeur artistique des Intrigants et président du comité d'organisation de ce festival, Valentin Mitendo Mwadiinda, s'est réjoui de la réussite de ce festival qui a accueilli 7000 enfants et des artistes venus de Matadi, Lubumbashi, Kikwit et ceux de Kinshasa. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matwaki.
Pendant ce festival, Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est déroulé. C'est que 7000 enfants ont joué pendant 4 jours, du matin au soir. Et 622 artistes, de jeunes, des écoliers, se sont exprimés. Et 42 qui sont des artistes de grandes troupes, comme celles que vous venez de voir, et se sont ainsi exprimés. Je voudrais leur dire merci. Merci pour ce festival qui a été à la hauteur de ce que nous attendons. Nous avons un festival en vue au mois de mai de l'année prochaine. Les dates vous seront communiquées. Je voudrais que chacun de vous rentre à la maison heureux d'avoir participé à ce festival.
Actualité internationale. Le président russe Vladimir Poutine renforce ses partenariats stratégiques en Afrique. Hier samedi, il a accueilli à Moscou les présidents du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, et celui du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. C'était à l'occasion des cérémonies marquant le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Au-delà de la commémoration, la séquence a pris une tournure très politique dans un contexte marqué par les appels occidentaux à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Moscou affiche sa capacité à rallier des partenaires clés, notamment sur le continent africain.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Judith Maroy, responsable du club Zaïda Catalane pour la paix et la sécurité. Zaïda Catalane, c'est cette chercheuse suédoise tuée dans le Kasaï pendant la crise due au phénomène Kamuina Sapu qui a secoué cette partie du pays en 2017. Selon une étude publiée par l'Institut international des recherches sur la paix basée à Stockholm en Suède, les impacts du changement climatique et de la dégradation de l'environnement dans l'est du pays interagissent avec les vulnérabilités, l'insécurité et les problèmes socio-économiques et politiques. Judith Maroy apporte ici son éclairage sur la situation dans les zones de l'est du pays. Elle s'entretient avec Ronéline Tibonera.
Judith Maroy, bonjour.
Bonjour.
Vous avez contribué à une recherche sur les climats, la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. En tant que femme, quel état des lieux vous faites de la situation dans cette partie de la RDC?
Merci beaucoup. D'entrée des jeux, je voulais dire que cette recherche est très importante, en ce sens qu'elle met en lumière cette intersection entre le climat et les effets du changement climatique et la paix et la sécurité humaine. On a constaté que les effets, même si le climat n'est pas à l'origine directement du conflit, il peut quand même l'exacerber ou le favoriser. Par exemple, dans des zones de l'est de la RDC où ce sont déjà des zones instables, des zones en guerre, quand il y a des effets du changement climatique où les personnes, il y a glissement de terrain et les personnes sont déplacées, ils sont amenés dans un endroit là où ils sont déjà une zone instable, ils n'ont plus leurs moyens de subsistance, ils n'ont plus leurs champs pour cultiver, ils deviennent oisifs. Les enfants peuvent être source d'insécurité ou de banditisme dans les milieux d'accueil. Cela crée de conflits avec les familles qui les ont accueillis. Et par la suite, ça peut exacerber ce qui existe déjà. On a donné l'exemple, par exemple, à Calais, où il y a 2 ans, une catastrophe est arrivée. On a déplacé ces gens de Bouchouchou dans une concession d'une personne. Et 2 ans plus tard, on ne leur a pas donné où aller. D'abord, les concessionnaires commençaient à réclamer sa place. Et là où ils étaient, les enfants des déplacés dus aux catastrophes de Bouchouchou, n'allant plus à l'école, leurs parents n'ayant plus des champs pour cultiver, ces enfants sont allés voler dans les maisons. Un enfant a volé, c'est pas une poule, des chèvres, et ça a été source de conflits. Des gens ont failli se tuer à la machette. Et cette recherche a démontré comment les questions de changement climatique sont intimement liées à la paix et la sécurité, d'où l'intervention des uns des autres, donc qui travaillent dans les domaines de peace building, de toujours insérer ou parler de la question du climat, en ce sens que c'est intimement lié et ça peut soit aggraver la situation ou le favoriser.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut également imputer la problématique du changement climatique sur l'accroissement des décades de violence basées sur les genres et d'autres problèmes spécifiques à la femme?
Bien évidemment, on a aussi démontré comment les femmes, elles sont tant vulnérables au conflit qu'au changement climatique. Les femmes, par exemple, le changement climatique a affecté leur agriculture. Les champs ne produisent plus. Elles sont obligées de faire beaucoup de kilomètres pour chercher de l'eau parce qu'il y a peut-être sécheresse, et quand elles vont chercher de l'eau loin de leur maison, elles se font violer, elles peuvent se faire tuer dans leur champ. Mêmement, on sent combien le changement climatique, en lien avec le conflit, exacerbe les violences basées sur le genre et dont sont principalement victimes les femmes. D'où leur implication, ce qui fait notre intervention, travailler pour que la femme participe plus à la justice climatique afin qu'il y ait cette paix environnementale. On sait que ce n'est pas facile, mais elles sont quand même résilientes, ces femmes. Elles essayent d'outrepasser toutes ces constructions sociétales qui les interdisent de prendre part active à la justice climatique, à la réforestation ou encore au recyclage des déchets, tant de déchets des champs ou des déchets plastiques. Et il faut plus de sensibilisation. Les femmes, elles comprennent, mais peut-être pas en des termes aussi sophistiqués, mais elles savent comprendre combien elles sont plus vulnérables, d'où leur implication s'il faut prendre des décisions en matière de climat ou de la paix et de sécurité.
Exactement. Pour vous, en tant que militante, quelles seraient les actions prioritaires pour atténuer les effets du changement climatique sur des questions de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC?
La principale, c'est de soutenir les initiatives déjà existantes de subsistance, de résilience climatique. Les femmes à Kabare, à Calais, à Bukavu, c'est pas partout au Congo, à Goma, au nord et au sud Kivu, elles ont déjà des initiatives qu'elles mettent en place pour s'adapter aux effets du changement climatique. Par exemple, elles fabriquent des briquettes écologiques à base des déchets des champs. Cela constitue une alternative au bois de chauffe, ce qui ne vont plus aller chercher le bois et vous pour se faire violer. Elles ont désormais les déchets de leurs champs qui vont plus tard transformés en briquettes écologiques à base des matières qui ne demandent même pas d'argent. Ce sont des matières premières de leur village. Soutenir ces gens d'initiative, ça serait très important. Les femmes, elles les font à la main. Et si on permettait qu'elles aient des machines pour le faire afin d'en produire à quantité industrielle pour que ça soit une vraie alternative, qu'elles en produisent, qu'elles soient des grands fournisseurs de ces briquettes parce qu'il y a de la matière et c'est facilement trouvable dans les milieux, ça peut être important. Une autre recommandation, c'est de intensifier les sensibilisations. On a longtemps pensé que les changements climatiques étaient une question des Blancs, une question des Occidentaux, mais on comprend que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes concernés par cette question et elle nous affecte directement.
Judith Marot, merci.
Voilà, notre invité répondait aux questions de Ronéline Tibonera. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.